Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En l'an 2000, c'était sur les mots de Charles Péguy, extrait de présentation de la Beauce à Notre-Dame de Chartres, que s'ouvrait le deuxième volet de la série Canis Clément consacrée aux bâtisseurs de cathédrales dans les chemins de la connaissance. En compagnie de Philippe Plagneux, professeur d'histoire de l'art médiéval à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, c'était aux hommes de la pierre qu'était consacré ce deuxième épisode. Aux maçons et aux tailleurs de pierre, et parmi eux, aux imagiers, c'est-à-dire aux artistes sculpteurs. Mais les cathédrales, l'incendie de Notre-Dame de Paris nous l'a cruellement rappelé, c'était aussi beaucoup de bois, des chênes et des châtaigniers qu'on abattait par milliers. Avec l'historien spécialiste de l'histoire des compagnonnages en France, François Hichet, dans le troisième épisode de la série, c'était en particulier l'importance des charpentiers sur ces gigantesques chantiers qui étaient rappelés, celle des menuisiers, mais aussi celle des couvreurs, des plombiers, celle des forgerons, des serruriers. Les ouvriers des cathédrales, les hommes de la pierre et les hommes du bois, deuxième et troisième volet d'une série de cinq, diffusés respectivement pour la première fois le 28 et 29 mars 2000 sur France Culture.
De cette terre, un réservoir sans fin pour les âges nouveaux. Mille ans de votre grâce ont fait de ces travaux un reposoir sans fin pour l'âme solitaire. Un homme de chez nous de la glèbe féconde a fait jaillir ici d'un seul enlèvement et d'une seule source et d'un seul portement vers votre assomption, la flèche unique au monde.
Maçons, tailleurs de pierre, sculpteurs et autres ouvriers habiles se présentaient en grand nombre, de sorte que par ce signe et par d'autres, la divinité nous libérait de nos craintes et nous manifestait sa volonté en nous réconfortant et en nous pourvoyant en abondance de ressources inattendues. Ce texte de l'abbé de Saint-Denis, de l'abbé Sugère, mentionne quelques-uns des corps de métier présents sur le chantier de la cathédrale gothique. Alors sur ce chantier, on va trouver toutes sortes de métiers avec une grande hiérarchie. En haut, les métiers nobles et en bas, la masse des petits employés. En haut de cette pyramide, Philippe Plagneux, étaient les hommes de la pierre.
Ce qu'on peut dire peut-être d'abord, c'est que les gens de la pierre constituent plusieurs corps de métier et plusieurs corps de métier qui sont extrêmement liés entre eux. L'architecte est un homme issu, en France en tout cas, le plus souvent du milieu de la pierre. Il y a bien sûr sous ses ordres les tailleurs de pierre, les maçons tailleurs de pierre, puisqu'on est, il n'est pas toujours facile de les distinguer dans la réalité, dans les faits. Et bien sûr, les carriers. Et tous ces trois corps de métier, tous ces hommes sont extrêmement liés entre eux. Ils se connaissent très bien. Je vous ai dit, l'architecte, souvent, est issu du milieu de la pierre. C'est souvent un tailleur de pierre, de formation, un peu plus doué que les autres, qui peu à peu passe architecte. Mais quand on suit comme ça des carrières, on les voit d'ailleurs compagnons tailleurs de pierre, puis arriver au sommet de la hiérarchie. Donc l'architecte est un homme de la pierre, un tailleur de pierre, et l'architecte, souvent, c'est lui qui connaît le mieux les qualités de pierre. C'est un des grandes spécificités, des caractères de la construction gothique, c'est que on sait distinguer les pierres, les différentes qualités, et les employer différemment selon les sculptures, les parements intérieurs, extérieurs. Et l'architecte connaît très bien la pierre, et c'est lui souvent qui fait qui va passer les marchés auprès des carriers. Donc on le voit à la carrière et discuter avec les carriers, choisir les qualités de pierre. Et souvent, l'architecte à la fin du Moyen-Âge est aussi un propriétaire de carrière. Donc ces trois métiers de la pierre sont liés entre eux. Ils travaillent le même matériau et forcément, ils se connaissent.
Enfin, on l'oublie un petit peu trop souvent, le premier ouvrier de la cathédrale, c'est donc le carrier qui, dans la carrière, va commencer à débiter ses blocs de pierre.
Ah, c'est évident, c'est le point, l'alimentation, enfin, pour un grand chantier en pierre, c'est un petit peu le point, on a envie de dire zéro de la construction, enfin, du point du matériel, pas théorique, mais au moins matériel, une fois que les plans sont dressés.
Alors, ce qui nous apporte beaucoup de connaissances sur ces hommes de la pierre, ce sont les marques lapidaires.
Oui, elles sont nombreuses, mais assez pas toujours faciles à décrypter, elles sont un petit peu de tous ordres, c'est-à-dire que vous avez des marques de pose. Là, souvent, on ne les voit plus, il faut démonter les murs, c'est-à-dire entre le lit d'attente, le lit de pose, enfin, pour marquer l'emplacement de la pierre. Quand elles sont visibles, c'est souvent des marques de tâcherons, donc des carriers ou des tailleurs de pierre qui sont payés à la tâche, donc pour qu'on puisse reconnaître le travail de chacun pour le payer. Où on le sait, là, pour la fin du Moyen-Âge, notamment pour le chantier d'un des ponts de Paris, il y a plusieurs entrepreneurs, en quelque sorte plusieurs équipes. Et justement, chaque équipe met la marque du maître pour ensuite pouvoir, pour le paiement. Donc ce sont dans ces marques, elles sont des problèmes de montage, donc soit des problèmes un petit peu plus prosaïques de paiement.
Longtemps, on a pensé qu'elles avaient un caractère ésotérique.
Absolument pas, non. Souvent, ce sont des marques assez simples, quand c'est pour reconnaître un mètre, un triangle, un carré, une croix, enfin, c'est des choses assez peu complexes et sans doute assez peu ésotériques, mais beaucoup plus pratiques et prosaïques.
La cathédrale, c'est l'alliage subtil entre la pierre et le bois, mais on peut dire que dans le style gothique, c'est la pierre qui remporte la première place.
Tout au moins en France, ça c'est certain, où il y a souvent, à la fin du Moyen-Âge, il y a des architectes, il y en a un qui est responsable de la maçonnerie, le maître des œuvres de maçonnerie, et un maître d'œuvre de la charpenterie. Mais celui qui prend le pas sur l'autre, c'est le maître d'œuvre de la maçonnerie. C'est l'idée un peu pour nous de l'architecte. C'est moins vrai peut-être pour l'Angleterre, où la tradition de la construction navale, du bois, est beaucoup plus importante. Et on voit des grands architectes qui sont issus du milieu du bois. Et des grands charpentiers sont aussi réputés, sinon plus, que des grands architectes. En France, beaucoup moins. C'est vraiment la maçonnerie, l'architecte, le maître général du roi ou d'un prince, c'est un homme issu du milieu de la pierre. C'est le matériau noble.
Alors souvent dans l'iconographie des bâtisseurs de cathédrales, on représente la tour de Babel. Est-ce qu'elle était une sorte d'emblème des bâtisseurs de cette époque ?
Non, je pense pas. Si on sélectionne la tour de Babel, c'est parce que c'est pour des raisons iconographiques. C'est un chantier. Donc il est sûr que le peintre qui va illustrer la tour de Babel va représenter une construction. Donc si on cherche une image de la construction, on va plutôt vers ce type de représentation. Mais il n'y a pas d'assimilation de l'architecte à la tour de Babel. L'architecte, son signe, ça peut être le labyrinthe, hein, à cause de Tédale, le premier architecte. Vous savez que souvent les architectes ont signé leur nom dans les labyrinthes. C'est le cas à la cathédrale d'Amiens. En 1280, on pose le dallage avec un labyrinthe et on rappelle les quatre architectes qui se sont succédés à la tête de l'œuvre. Ou dans les sceaux d'architecte, un architecte peut choisir le compas, ce qui met un petit peu en avant son aspect théoricien. Il peut aussi prendre la truelle, l'instrument du maçon, ou le marteau pour tailler la pierre, ce qui montre un petit peu aussi la confusion entre... C'est un homme de la pierre, mais la confusion entre la construction, la maçonnerie, la taille de la pierre. Hein. C'est un petit peu toujours délicat. Et les emblèmes des architectes un peu traduisent cette confusion.
Je reviens à la tour de Babel, Philippe Plagneux, parce qu'il me semble qu'on y parlait aussi plusieurs langues sur ce chantier, étant donné que les ouvriers passaient d'un chantier à l'autre. Il pouvait y avoir aussi des ouvriers qui venaient de l'étranger. Et puis, je pense aussi à ce grouillement. Combien étaient-ils à travailler sur les chantiers ?
C'est très difficile à savoir. Alors, on a des chantiers exceptionnels. On le sait, par exemple, pour Saint-Jacques de Compostelle au XIIe siècle, il y a une cinquantaine de mètres. On a des chiffres à peu près équivalents pour Milan au XIVe siècle, pour Strasbourg, pour certains chantiers anglais encore plus important, mais c'est quand même extrêmement, extrêmement rare. Si on se contente vraiment, par exemple, des tailleurs de pierre, qui est un corps de métier extrêmement important, souvent ça tourne autour d'une dizaine. Mais attention, 8, 10, mais une dizaine de mètres. C'est-à-dire qu'un tailleur de pierre n'est jamais seul. C'est un maître, il a avec lui un compagnon, et en plus deux ou trois valets. Donc dans les comptes, souvent quand on a un maître tailleur de pierre qui est rémunéré, eh bien, celui-ci est chargé de rémunérer ses aides, c'est-à-dire 2 ou 3 personnes. Un tailleur de pierre, c'est souvent 2-3 personnes.
Mais par exemple, pour Chartres, on a dit qu'il y avait 300 personnes en permanence sur le chantier.
Ça, je crois que c'est des comptes tout à fait farfelus, et surtout, c'est une époque à Chartres où on n'a pas de documents comptables. On peut vraiment... Soit on a des documents un petit peu d'ordre littéraire, comme à Saint-Jacques-de-Compostelle, où on sait que le maître Bernard le Vieux vient sur le chantier avec une 50aine de tailleurs de pierre, mais c'est assez exceptionnel. C'est d'ailleurs pour ça peut-être qu'on monte un petit peu cela en épingle. Mais pour vraiment avoir des comptes précis, il faut avoir eh bien, des documents comptables, et ça, on n'en a pas avant le 14e et 15e siècle.
Le troisième point doit être particulièrement recommandé à l'apprenti. Les conseils de son maître, il doit garder et ne pas révéler, ainsi que ceux de ses compagnons. Avec bonne volonté, il ne révèle à aucun homme ce qui se passe dans la loge, ni ce qu'il entend, ni ce qu'il voit faire. Il le garde, pour le plus grand honneur, de peur qu'en les révélant, il ne soit à blâmer et n'apporte par sa faute grande honte au métier. Le Régius, vers 1390.
Est-ce qu'on peut faire une lecture du chantier, Philippe Planieux, de cette manière? Il y a des ouvriers qui travaillent en continuité, qui sont présents toute l'année, et d'autres qui ont une présence intermittente.
Ben, le chantier est assez irrégulier, même déjà dans la construction même. Elle marche au fur et à mesure que l'on alimente le chantier en argent. Ça, c'est le problème du financement. Souvent, il y a le chantier peut un petit peu végéter, c'est-à-dire qu'il y a en permanence une petite équipe de 5 ou 6 tailleurs de pierre. Et puis, quand il y a un petit peu plus d'argent, eh bien, on appelle beaucoup plus de personnes. Puis, il y a des moments l'été, il y a plus de personnes que l'hiver. L'été, on monte les maçonneries, ou au printemps. L'hiver, on ne peut plus construire, donc il y a simplement que quelques tailleurs de pierre dans la loge. Le chantier est irrégulier en raison des saisons et de l'alimentation du chantier, bien sûr, en argent.
Vous avez parlé de la loge des tailleurs de pierre. C'est un endroit symbolique?
Là, c'est peut-être encore un endroit mythique pour nous. La loge, c'est surtout en France, simplement l'endroit où travaillent les tailleurs de pierre. C'est l'atelier, en quelque sorte, des tailleurs de pierre. C'est là où ils ont ce qu'ils appellent les gabarits, c'est-à-dire ce qu'on appelle au Moyen-Âge les môles, donc les modèles pour tailler les pierres.
C'est la mémoire du chantier.
C'est un petit peu la mémoire du chantier. Il y a deux endroits un petit peu essentiels pour le chantier. C'est la loge, l'endroit où sont les tailleurs de pierre, et ce qu'on appelle aussi la chambre au trait, ce qui pourrait correspondre de nos jours à l'agence de l'architecte. C'est là où l'architecte dresse ses plans, c'est là où aussi il va faire les gabarits, les môles, sur un parchemin, qui va ensuite les confier à un menuisier pour tailler ces gabarits, qui va donner ensuite à la loge. Mais la loge, il ne faut pas non plus exagérer, c'est l'endroit où travaillent les maçons, qui peut être souvent provisoire, puisque le chantier souvent est provisoire, elle existe tant que dure la construction. Les loges allemandes sont beaucoup mieux organisées, ce sont des grands chantiers souvent permanents, et donc la loge est permanente, il y a une hiérarchie dans la loge, et souvent aussi une hiérarchie d'une loge à l'autre, et puis tout un système de confraternité d'une loge à l'autre. En France, absolument pas. Toutes ces loges sont complètement indépendantes et elles existent avec le chantier.
Oui, mais justement, Philippe Planieux, on a beaucoup fantasmé sur cette loge des tailleurs de pierre. Est-ce que l'aspect secret du métier pouvait se trouver là? On a parlé de nombre d'or, de franc-maçonnerie. Qu'est-ce qu'on peut penser de tout ça?
Je crois que tout ça, c'est un petit peu... Ça ressent un petit peu du mythe, comme la cathédrale génère un mythe, la loge génère un mythe. Il est sûr que quand vous avez une équipe d'ouvriers spécialisés qui font des monuments aussi extraordinaires et qui travaillent dans un lieu fermé, cela suscite forcément le mythe. En plus, vient que les métiers, c'est vrai, cherchent surtout en Allemagne avec ces loges à se protéger, à s'autogérer en quelque sorte, à avoir une juridiction qui est propre pour les ouvriers. Et donc, c'est vrai que cela peut créer un petit peu toute cette mythologie autour de la loge et du maçon avec un petit thème ou un grand thème.
Mais est-ce qu'au XIIIe siècle, il y avait déjà des textes qui protégeaient les ouvriers ?
Il y a des textes qui protègent les corps de métier. À partir du XIIIe siècle, les corps de métier cherchent à se défendre. Les professions se défendent. C'est-à-dire que n'importe qui ne peut pas exercer le métier sans avoir d'abord exercé un apprentissage, sans avoir travaillé pour un maître. Donc la profession se protège et puis en plus elle va élire des jurés, c'est-à-dire en cas de contestation, quand un commanditaire n'est pas content du travail qu'on a fait, eh bien faut bien que quelqu'un puisse trancher. Donc ces maçons ou les autres professions se regroupent en corporation, elle va élire des jurés justement pour trancher des conflits, soit des conflits internes, soit des conflits entre le commanditaire et le prestataire de service. Et puis en plus, on va régler un petit peu le métier, savoir la durée de la journée de travail, savoir combien on peut employer d'apprentis, combien d'années d'apprentissage avant d'exercer la maîtrise, combien faut-il payer pour accéder à la maîtrise, ouvrir le métier ou le fermer selon les besoins. Donc on s'organise en corps de métier.
Voici la parure des souveraines. Aucune draperie n'était pareille. Les unes tombaient sans cassure brusque, ridulées, semblables à un frise lion du landau. Les autres descendaient en ligne parallèle, en fronce serrée. Et la dure matière se pliait aux exigences des habilleurs. S'assouplissait pour les crêpes historiées, pour les futaines et les fils de pur lin. S'alourdissait pour les brocarts et les ors froids. Les colliers étaient ciselés grain à grain. Les nœuds des ceintures auraient pu se dénouer tant les cordelettes étaient naturellement enlacées. Les bracelets, les couronnes étaient forés, martelés, sertis de gemmes montées dans leurs chatons. Et souvent, le socle, la statue, le dais avaient été taillés d'une seule pièce dans un même bloc. Quels étaient donc les gens qui avaient sculpté de telles œuvres ? Était-ce une compagnie de ces imagiers qui allaient d'un pays à l'autre ? Et quelles âmes ils avaient, ces artistes ? Car nous le savons, ils ne besognaient que lorsqu'ils étaient en état de grâce. Huysmans, la cathédrale.
Philippe Lagneux, parmi les tailleurs de pierre, il faut faire une catégorie à part avec les artistes sculpteurs qui nous ont laissé ces milliers d'images de pierre qui nous émerveillent encore aujourd'hui.
Oui, alors là, on touche un problème un petit peu sensible et délicat. C'est celui de l'artiste, en quelque sorte. Il est sûr que si on a du mal à distinguer le tailleur de pierre du maçon, on distingue le sculpteur, mais l'imagier. Il est appelé au Moyen-Âge l'imagier. C'est l'artiste, c'est l'imagier qui fait les grandes statues, en quelque sorte, puisque il est sûr que les maçons, les tailleurs de pierre, font la sculpture ordinaire. Tout ce qui est chapiteau, moulure, modénature, ça ressort du tailleur de pierre. Un tailleur de pierre est un peu plus doué que les autres. Mais le sculpteur, tel qu'on l'entend actuellement, il a un statut à part, c'est l'imagier. Et c'est un homme souvent un petit peu difficilement cernable, c'est un homme polyvalent, comme les grands artistes au Moyen-Âge. Souvent, certains sculpteurs sont aussi des peintres. On voit des architectes qui sont également sculpteurs. Et là, ça touche à la fois à l'artiste, ça touche aussi à la polyvalence de l'art, telle qu'on la connaîtra peut-être jusqu'à la Renaissance. Mais ils ont un statut à part, ils ne travaillent pas dans la loge, ils sont payés souvent à la pièce.
Est-ce qu'il y a une liberté dans la créativité, ou est-ce que toute la partie iconographique est commandée par l'évêque ou par les chanoines ?
La liberté, elle existe, mais il faut véritablement la tempérer, puisque le programme est souvent fixé par le commanditaire. Soit c'est un programme religieux, quand il faut illustrer une vie de saint un petit peu complexe, l'artiste n'a pas accès au texte, donc on lui fournit les modèles, on lui fournit l'histoire en quelque sorte, les événements, les séquences, ou même quand il y a des grands programmes politiques, il est sûr que tous les grands programmes politiques de la statuaire de Charles V, ce sont les juristes de Charles V, qu'il est fixe. Donc l'artiste n'a que sa sensibilité en quelque sorte comme liberté.
Est-ce qu'il avait des modèles, ce sculpteur? Est-ce qu'il pouvait transporter ses modèles d'un chantier à l'autre?
Il est certain qu'il y a des carnets de modèles. Alors on en connaît assez peu parce que c'est des choses qui vieillissent vite, sans doute sur des parchemins, qui ont une durée de vie d'une ou deux générations. Mais pour le XIIe siècle, par exemple, ou le XIe siècle, vous voyez des tas de chapiteaux qui reprennent le même thème d'une église à l'autre, qui marchent par série, et le traitement est complètement différent. Alors si le traitement est différent, ça ne peut pas être le même sculpteur. Ce qui veut dire qu'à la base, il y a un carnet de modèles. Et quelquefois, on voit même des éléments qui sont inversés, c'est-à-dire qu'on peut recalquer, etc., un petit peu jouer avec les éléments, des carnets assez souples. Il y a des carnets de modèles, il y a aussi sans doute des modèles même pour les grands sculpteurs dans l'atelier.
Mais est-ce qu'on retrouve le style d'un sculpteur d'une cathédrale à l'autre ?
On peut le retrouver, bien sûr. On voit que, que dès le XIIe siècle ou l'XIe siècle, qu'on retrouve des mains, en quelque sorte, bien que ce soit très, très, très délicat. D'une part, le sculpteur n'est jamais seul, il a des aides. Donc, quelquefois, compter des mains, c'est un petit peu vain, un petit peu délicat. Mais il est sûr que vous retrouvez, dans un monument à l'autre, des mêmes chapiteaux. Il est sûr que le cloître de Saint-Denis, par exemple, eh bien, on retrouve un des sculpteurs du cloître de Saint-Denis dans l'abbatiale de Saint-Germain-des-Prés. Et peut-être même aussi à Notre-Dame de Paris.
Alors, ces sculpteurs étaient anonymes, tout comme les architectes, la plupart du temps.
Anonymes, quelquefois, elles ont signé leurs œuvres, bien que là encore, c'est un petit peu délicat. Quand vous avez un chapiteau sculpté, comme à Saint-Benoît-sur-Loire au XIe siècle, est-ce qu'il s'agit uniquement du sculpteur, ou est-ce que le sculpteur était également architecte? C'est un petit peu délicat. Pour la fin du Moyen-Âge, il n'y a aucun problème. On a des comptes, la notion d'artiste existe véritablement, donc on peut suivre des artistes. Pour le XIIe siècle, les œuvres signées existent, on a des noms, mais c'est quand même une grande minorité.
Alors, ce chantier, on l'imagine avec un vaste grouillement de gens qui vont, qui viennent, qui montent, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que c'était quand même la verticalité et qu'il y avait toujours, il fallait toujours monter des charges, monter, descendre. Alors, moi, je me pose une question, comment communiquait-on ? Est-ce qu'il y avait des codes entre métiers, entre les gens ?
La communication entre les gens, je ne sais pas si elle est tout à fait formalisée, mais il y a au moins l'architecte qui donne le diapason, en quelque sorte, qui est le grand ordonnateur du chantier.
Oui, mais il ne peut pas être partout.
Il ne peut pas être partout. Alors, il est même souvent absent, puisque les grands architectes sont quand même rares. On essaye de se les arracher, mais il a son représentant qui, lui, est sur place. Ce qu'on pourrait appeler maintenant le conducteur des travaux, en quelque sorte, qu'on peut aussi appeler quelquefois l'appareilleur, le parlier en Allemagne, le parleur, hein, celui qui fait la liaison en quelque sorte entre l'architecte et les différents corps de métier. En tout cas, il est sûr qu'il faut coordonner tous ces corps de métier. Il est sûr qu'il faut que l'approvisionnement en pierre soit continu. Il faut que la pierre soit taillée pour que les maçons puissent la monter. Il est sûr que s'il y a un problème dans la chaîne, c'est le chantier entier qui s'arrête. La communication, il y a quelqu'un qui est chargé de cette communication, soit c'est le maître d'œuvre. Le maître d'œuvre, soit c'est l'architecte, ou soit c'est son représentant sur place.
Mais je pense que la plupart des ouvriers étaient analphabètes, on ne savait ni lire ni écrire. Comment on leur expliquait le travail ?
Je pense que analphabète, oui, c'est certain. On a même des architectes eux-mêmes, des grands architectes qui ne savent pas signer. Donc, on est analphabète. Mais au Moyen-Âge, c'est pas un handicap, je pense, où c'est la majorité, la grande majorité des gens. Mais il y a surtout un extraordinaire savoir-faire. Quand vous avez commencé en apprentissage à l'âge de 13, 14 ou 15 ans, quand vous avez commencé au service d'un maître tailleur de pierre, quand vous avez commencé à balayer son atelier, puis être compagnon, eh bien, vous avez dans les mains, dans les bras, dans la tête, un très grand savoir-faire, une très grande expérience. L'architecte fait les plans, fait les traits. Il fait les gabarits, ensuite on fait pour les montages un peu délicats des épures, c'est l'appareilleur qui les fait. Ou c'est,
qu'est-ce que c'est que les épures ?
Les épures, ce sont des tracés en quelque sorte à l'échelle 1, souvent de réseaux de fenêtres. Quand il y a des réseaux, des roses par exemple, ou des montages un petit peu compliqués, eh bien il faut les tracer sur le sol et souvent à l'échelle. Donc soit l'architecte, soit son aide va tracer les épures. Ça c'est les personnes les plus douées en quelque sorte qui font ça. Mais il est certain qu'un tailleur de pierre sait les interpréter sans aucun problème. Quand vous êtes sur un chantier depuis l'âge de 14 ans, il n'y a aucun problème. Je veux dire que le métier, vous l'avez à la fois dans la tête et dans les mains, ce sont des automatismes. Ça, c'est le savoir-faire qui est irremplaçable.
Est-ce qu'on peut dire que ces ouvriers des cathédrales étaient portés par la foi ? Parce que cette cathédrale, c'était aussi la maison des fidèles, c'était leur maison. Et ils participaient, chacun à leur manière, à la gloire de Dieu.
Alors, les ouvriers sont portés par la foi comme chacun au Moyen-Âge est porté par la foi, comme tout chrétien est porté par la foi. Mais je dirais ni plus ni moins que les autres. D'une part, la construction, c'est une affaire de professionnels, surtout quand les techniques deviennent de plus en plus complexes avec le monde gothique, mais déjà dans le monde roman, c'est-à-dire que le simple dévot, le simple pèlerin ne peut pas construire une cathédrale. C'est vraiment une affaire de professionnels. Et donc, il y a des métiers, il y a des ouvriers du bâtiment, mais il n'y a pas d'ouvriers spécialisés dans la cathédrale ou en réalité l'édifice religieux. C'est-à-dire que le même ouvrier va selon les commandes, selon les besoins, construire un moulin, une maison, une cathédrale, un palais épiscopal, un château, un hôtel de ville. Donc, il faut un petit peu moduler, là encore, le mythe de ces cathédrales et qui sont un petit peu construites par la foi des pèlerins ou du peuple chrétien.
Donc, c'est nous qui avons créé ce mythe de la cathédrale ? C'est un mythe d'aujourd'hui ?
Ah, la cathédrale est tout à fait un mythe d'aujourd'hui où la cathédrale, on a tendance à l'assimiler à un grand édifice gothique. Il y a dans cette mythologie un petit peu de la construction les grandes abbayes romanes, les grandes cathédrales gothiques. Il n'y a pas de chantier des cathédrales, ça ne veut rien dire. Il y a des grands chantiers et des petits chantiers, mais il est sûr qu'au point de vue construction, il n'y a aucune différence entre un château important, une cathédrale, une abbatiale. Alors dans le mythe, c'est vrai que la cathédrale, eh bien, c'est le grand chantier où il y a à la fois des corps de métier extrêmement spécialisés, des techniques tout à fait les plus en pointe, il y a de la sculpture, il y a du vitrail, mais en réalité ça représente un grand chantier médiéval. Il y a la même chose pour un palais, pour un château, pour une abbaye, pour une collégiale. Il n'y a pas de chantier des cathédrales dans la réalité, dans le mythe peut-être.
Plus haut que tous les saints, plus haut que tous les rois. La flèche irréprochable qui ne peut faillir.
Les ouvriers des cathédrales, les hommes de la pierre, avec Philippe Planieux, maître de conférence à l'université de Paris 10. Texte dit par Laurent Lederer.
Ni pointe unieuse, ni le profil connu d'un arbre interchangeable. C'est déjà plus distante et plus basse et plus haute, ferme comme un espoir sur la dernière côte, sur le dernier coteau. La flèche inimitable.
Pierre Caumont, Franck Berger, Philippe Carminati, Nathalie Battus. Une émission d'Anis Clément.
Des deux bras de votre cathédrale.
Lever une cathédrale, bon, c'est un verbe qui est encore
usité. C'était Les Hommes de la Pierre, le deuxième volet de la série Les Ouvriers des cathédrales, proposé par Agnès Clément dans Le Chemin de la Connaissance, diffusé la première fois le 28 mars 2000 sur France Culture.
Capacité,
tout de suite, troisième
divine,
temps, Les Hommes du Bois.
Que possède l'homme éclairé par la connaissance de son métier, c'est-à-dire de prendre, d'avoir, de dessiner une idée, à même le sol ou sur du parchemin, et de lever cette idée, c'est-à-dire de la rendre divine, de la rendre sacrée. C'est tout le sens de la flèche, qui ne se lève plus, qui se dresse. Là aussi, on a une étude assez intéressante à faire sur le vocabulaire et sur les verbes. Entre lever quelque chose et dresser autre chose, il y a plus qu'une subtilité. Il y a une vocation qui est à nouveau sacrée, puisqu'il y a une dimension qu'il faut rappeler. Dans l'univers des œuvriers des cathédrales, ces hommes sont quelque part sublimés, ont une sorte de transcendance parce qu'ils participent à quelque chose de sacré. En travaillant sur le chantier de cathédrale, ils bâtissent deux choses. Ils bâtissent bien sûr un édifice concret, mais ils se bâtissent eux-mêmes en participant à un chantier qui sort de l'ordinaire, c'est-à-dire un chantier extraordinaire.
Dans un fracas, un cri grave comme un râle, un souffle fort comme un coup de mistral, le chêne du chevet de l'église future s'est abattu dans le soleil du matin en soulevant un nuage de poussière de fleurs. Nous avons sacrifié le géant de 100 pieds, le chêne centenaire. Ce texte nous rappelle qu'on peut voir un immense réseau de chênes et de châtaigniers dans les charpentes et les combles des cathédrales. On peut dire qu'une forêt tout entière règne dans les hauteurs. Car malgré le triomphe de la pierre au gothique, le bois demeurait un matériau indispensable pour la charpente, les échafaudages, les engins de levage. D'ailleurs, on compare souvent les charpentes des cathédrales à un navire inversé, François Hichet.
Oui, lorsqu'on observe l'émergence des cathédrales, on s'aperçoit que l'on va très rapidement observer un renversement, un basculement dans la problématique bois-pierre. Il s'agit maintenant, avec la cathédrale gothique, d'accueillir de plus en plus de fidèles dans un espace plus large, plus haut, plus beau, plus lumineux. Donc, cette victoire de la pierre sur le bois, il faut quand même la mettre en relation avec une complémentarité. Il n'y a pas de pierre sans le support bois, et le support bois dans la cathédrale gothique n'a de valeur, n'a d'influence que par le positionnement de la pierre. Alors, là où l'historien a son message à porter, eh bien, il faut d'abord qu'il se transforme en mythologue. C'est-à-dire, ce qu'ont très peu fait les historiens, en fait, c'est d'aller chercher, investir, interroger, en fait, les légendes, les grandes traditions de métier. Et là, on peut approcher avec un autre œil, en quelque sorte, la cathédrale et l'univers gothique. Si l'on réfléchit, est-ce qu'il y a un mythe, une tradition, une image reliée au métier du bois? Bien, il y en a une dans notre tradition occidentale qui est l'Arche de Noé. Si l'on observe les enluminures, les miniatures du XIIe, XIIIe et surtout au XVe siècle, donc ultérieurement, on s'aperçoit qu'à travers l'Arche de Noé, on a la glorification de tous les métiers du bois qui ont participé à la cathédrale. Noé n'est rien d'autre qu'un charpentier, qu'un architecte, et toutes les représentations imagées de Noé, bien, ne sont en fait que des transpositions de l'univers cathédral et des gens de métier du bois qui participent au levage de la cathédrale. Donc Noé, impérativement associé à la glorification des charpentiers. Et très logiquement, donc, au mythe de Noé correspond la tradition donc de Babel, qui marque là, bien sûr, cette fameuse victoire de la pierre sur le bois. Mais encore une fois, il faut lire les images de Noé ou de Babel en ayant toujours en mémoire qu'il s'agit de retransposer le chantier cathédral. Effectivement, quand on observe donc toutes les représentations de la tour de Babel, on voit une multitude d'ouvriers, mais il vaut mieux dire œuvriers, des chantiers cathédraux. On voit le charroi, la carrière, la forêt, et surtout ce foisonnement de milliers de personnes qui participent au levage de Babel, c'est-à-dire au levage de la cathédrale. Et le mythe de Babel prend toute sa signification et prend une toute autre dimension lorsqu'on connaît les paramètres fondamentaux. À savoir, dans Babel, on dénonce la confusion des langues, on dénonce un orgueil, Bref, tous ces enjeux que le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre de la cathédrale se doivent de maîtriser. Donc Noé, le bois, Babel, la pierre, c'est encore une fois non pas l'opposition de deux traditions de métier, mais la mise en complémentarité. Sans le bois, la pierre ne peut être levée, et il est faux donc de réduire la cathédrale à un livre de pierre. C'est également un livre de bois, mais qui est beaucoup moins visible.
François Hichet, on a vu que pour la construction de la cathédrale, trouver une carrière était une des premières préoccupations parce qu'il fallait de la pierre, de la pierre de qualité. Mais trouver une forêt pour le bois de charpente est une autre des préoccupations.
Bien sûr, on peut hiérarchiser les cathédrales en fonction de lieu. Une belle cathédrale, une très belle cathédrale, c'est que fort certainement, elle a eu à proximité de la ville une carrière et une forêt. Restons sur la forêt. Effectivement, si l'on oublie donc ce paramètre qui est disposer d'une bonne forêt avec des arbres de haute futaie, des chênes, des châtaigniers, on ne peut pas comprendre le pourquoi et le comment de telle ou telle cathédrale à tel ou tel endroit. Au XIIe siècle, qui est un peu la période clé, la période charnière, on passe un peu d'une exploitation anarchique de la forêt à une exploitation beaucoup plus planifiée. Il faut faire attention au bois. Je crois qu'au XIIe siècle, on prend conscience de l'enjeu de gérer, de maîtriser un peu un patrimoine forestier qui jusqu'alors était livré à diverses sollicitations. C'était la chasse, c'était le bois de chauffage pour les villes, etc. Et je crois que là-dedans, eh bien, ce sont les cisterciens qui figurent parmi les premiers à avoir cette culture de gestion d'entreprise forestière. Alors malgré le triomphe de la pierre sur le bois, mais on s'aperçoit que sans forêt de qualité, sans forêt de quantité, l'édifice cathédral ne peut avoir la dimension qu'on veut bien lui proposer.
François Hichet, combien fallait-il d'arbres pour construire une cathédrale? On le sait, ça?
Bien sûr, mais chaque cas est un cas. Je vais vous donner simplement deux chiffres, si vous le voulez bien. Au XIVe siècle, le château de Windsor, par exemple, bien nécessite 3950 arbres abattus. 3950 arbres, ce qui est énorme. Et si l'on revient en France, dans un exemple qui lui aussi est très connu, très emblématique, je veux parler de la forêt de Notre-Dame de Paris, je vais revenir sur ce mot forêt d'ailleurs, eh bien, dans les milieux des compagnons charpentiers, encore aujourd'hui, on avance le chiffre de 800 chênes pour la seule charpente de la forêt de Notre-Dame de Paris. Donc les enjeux sont de taille.
Quelles étaient les essences? On parle de chênes, de châtaigniers?
Oui, au-delà de savoir donc chênes, châtaigniers, je crois que la véritable lecture, elle est dans bois sec, ou bois vert. Et là, c'est très important. Si effectivement, il est capital de disposer d'un stock de bois sec, il est parfois surprenant pour un lecteur non averti de la cathédrale et de la charpente. Eh bien, on s'aperçoit que parfois, et souvent même, les bâtisseurs d'alors ont été dans la nécessité de solliciter du bois vert parce qu'il fallait rapidement disposer d'une quantité de bois que l'on n'avait pas forcément en stock. Donc, des essences bien sûr nobles. Hein. Le chêne, c'est vraiment l'arbre noble à tout niveau. Des traditions, des contes circulent sur cette essence qui est vraiment l'essence essentielle de l'édifice cathédral. Mais la forêt, donc, c'est d'abord des milliers d'arbres qu'il faut couper. Alors, lorsqu'on parle du charpentier, bien en amont du métier de charpentier, et ce sont en fait les grands oubliés des œuvriers des cathédrales, il y a des métiers du bois qui ne sont qu'en forêt. Bien sûr, il y a le maître d'œuvre qui va dans la forêt, il y a des charpentiers qui vont dans la forêt pour repérer, pour choisir les essences, mais il y a des petits métiers du bois que l'on a trop vite rangés dans l'oubli de l'histoire. Je veux parler des fendeurs, des débardeurs, des débusqueurs, des mots aussi régionaux comme les schlitters, mais aussi des gens qui vont transporter ces troncs de bois.
Les charrois ?
Bien sûr, hein, donc les bouviers. les charretiers. L'important du charroi, bien sûr, qui est un peu le fil conducteur de la lecture du chantier cathédral. Mais aussi un système de transport qui est beaucoup moins cher et que là aussi, il faudrait mettre en lumière et mettre en valeur. C'est le métier de flotteur. Le bois a cette particularité quand même ô combien intéressante à l'époque et encore aujourd'hui de flotter. Donc il y a des métiers spécialisés dans l'art de guider les essences de bois, les troncs d'arbres, les arbres même choisis sur le fleuve, ce sont les flotteurs. Tous ces gens participent au chantier cathédral, figurent sur les livres de comptes et je crois qu'il faut rendre hommage à ces anonymes, à ces inconnus qui sont en amont du chantier cathédral dans la forêt, sans laquelle bien sûr l'édifice n'aurait pu être levé.
Alors François Hichet, on a parlé de navires renversés comme une architecture qui viendrait de la mer. Est-ce que les constructeurs de cathédrales étaient aussi des constructeurs de navires, de marines ?
Oui, il faut savoir que le métier de charpentier est très simple et très complexe à la fois. Je crois que si le charpentier cède aux maçons dans la symbolique de la cathédrale gothique pour se réfugier justement dans des charpentes qui sont très souvent dissimulées sous les voûtes de pierre, eh bien, portons notre regard sur l'Angleterre où on a exactement des situations inverses, à savoir la flèche. La flèche de la cathédrale, c'est encore le dernier espace où la suprématie du bois peut clairement se situer et s'affirmer. La flèche de Salisbury dans le Royaume-Uni ou la tour lanterne de Ely toujours dans le Royaume-Uni, eh bien montre quand même que le seul endroit où encore les charpentiers peuvent revendiquer et surtout peuvent afficher aux yeux du public, si le mot public est correct en l'occurrence, eh bien c'est sans doute cet endroit-là. Et le charpentier de marine est vraiment un des maître dans la charpente qui est sollicité lui aussi pour le chantier cathédral. Et ce n'est pas par hasard que c'est bien sûr en Angleterre, c'est-à-dire dans une île où le métier de charpentier de marine est beaucoup plus présent, beaucoup plus important, hein, que se situent eh bien, les grands travaux, les grandes œuvres, je dirais même les grands chefs-d'œuvre de flèches, de tours lanternes. On ne peut pas comprendre la cathédrale gothique si l'on oublie qu'au-delà du maître d'œuvre, il y a des spécialistes dans l'art du dessin qui ne sont pas obligatoirement les seuls maîtres d'œuvre. Je veux parler des maîtres charpentiers, des maîtres tailleurs de pierre. Et donc au niveau du vocabulaire, il est bon de rappeler que le maître charpentier, lui, c'est le spécialiste du tracé, c'est le spécialiste du trait. Eh bien, il faut le mettre en relation avec l'art du trait des tailleurs de pierre qu'on appelle la stéréotomie. Donc le couple pierre-bois, il se lie aussi à travers le couple trait et stéréotomie. Deux arts de dessiner, de tracer, de penser le volume dans ses dimensions, de le coucher sur du parchemin ou à même le sol, eh bien le maître charpentier est dépositaire d'un savoir qui est capital, qui est essentiel, qui est fondamental. Et ce savoir, il se doit de le transmettre au sein de la loge, bien sûr, des charpentiers.
J'ai observé les hommes du treuil. Attentif, le regard sur le bloc qui s'élance, se découpe à contre-jour en arêtes éblouissantes sur le ciel bleu foncé. Et puis les trois hommes fourmis là-haut, qui le tâtent, l'examinent, le manipulent, le tournent avec précaution et, doucement, avec un petit geste du doigt, le dirigent sans hâte. Par enchantement, le bloc vient se poser à la place prévue. Le mur ne paraît pas plus haut pour cela. La pierre a occupé l'espace discrètement, sans avoir l'air de rien.
Alors l'architecture gothique n'aurait jamais pu voir le jour sans l'invention de machines de levage. Ces machines créées pour hisser des colonnes, des cloches, des poutres, toujours plus haut.
Oui, et encore une fois, nos hommes du bois se révèlent comme des acteurs indispensables, sollicités à maintes occasions, dans maintes situations, pour lever cette cathédrale. Alors parmi les engins de levage, eh bien, il faut rappeler, en fait, il y en a deux hein, qu'il faut vraiment situer. C'est ce qu'on appelle un peu de façon réductrice la grue. Mais la grue, ça désigne beaucoup de choses sur le chantier cathédral. Il y a effectivement une grue à double poulie, c'est-à-dire de part et d'autre, par exemple, de l'édifice, on peut mettre en place deux poulies qui sont solidaires d'une grue. Mais il y a un mot qui est toujours connu, encore aujourd'hui, dans les milieux des compagnons charpentiers, c'est la chèvre. Mmh. Cette chèvre qui est donc une association de poutres avec un contrepoids, et toujours donc elle va supporter une double poulie. Sur la corde, à l'extrémité de la corde, bien, on accroche une griffe qui est donc une tenaille, une sorte de pince en fer, bien sûr, hein, qui va donc, qui est susceptible de lever des poids de plusieurs centaines de kilos. Donc la grue, il faudrait dire, il faut mettre au pluriel ce mot, des grues assez différentes, assez simples, mais qui ont le mérite d'être faciles à construire et à démonter. Ça, c'est important. Hein. Le chantier cathédral, on cherche avant tout des outils, des engins qui soient faciles à mettre en place très rapidement, mais également et surtout faciles à déplacer, donc faciles à démonter. Et le second engin qu'il faut rappeler, bien, c'est l'écureuil, ce mot qui est toujours sympathique à notre oreille. L'écureuil, qui est une sorte de, qui est une roue actionnée, elle aussi, qui actionne une poulie avec une pince ou une griffe. Et l'écureuil, eh bien, la capacité motrice de l'écureuil est assurée par deux hommes. Et en gros, en règle générale, un écureuil pouvait soulever des poids là jusqu'à 600 kilos, ce qui est quand même non négligeable.
Voilà, dans un écureuil de 2,50 m de diamètre, un homme seul pouvait faire monter un poids de 600 kilos. C'est incroyable.
Oui, un homme, deux hommes, dans le meilleur des cas. Mais effectivement, je crois que ce rapport de force nous permet de mieux comprendre, mieux analyser la quotidienneté de ce chantier cathédral. On ne connaît le chantier cathédral, en fait, si l'on réfléchit bien, que vraiment grâce à une iconographie qui est abondante. Nous avons une iconographie abondante, mais le problème de l'iconographie, c'est que c'est organisé autour de certains oublis, autour de certains silences. Les enlumineurs, les peintres, les miniatures de l'époque ne représentent que certains aspects du chantier cathédral. Ce sont des métiers qui sont les plus visibles, donc les métiers de la pierre, les métiers du bois, et ce sont des engins les plus visibles, donc la grue et l'écureuil. Tout cela pour dire et pour rappeler qu'au-delà de certains engins, au-delà de certains métiers, il y a quantité d'autres métiers, d'autres engins qui n'ont pas été représentés dans les enluminures, dans les miniatures. Donc nous n'avons qu'une vision assez réductrice de l'univers cathédral à travers l'iconographie médiévale. Mais ce problème des métiers du bois, des charpentiers, nos charpentiers, ils proposent au-delà des engins de levage, il faut rappeler quand même l'importance des échafaudages. Une chose toute simple, toute bête, qui est l'échelle. Ce sont des centaines, voire des milliers d'échelles qu'il faut construire, des échelles mobiles, des échelles solides. Et il y a une révolution dans l'échafaudage qu'il faut avoir à l'esprit. Ça n'est fini de l'échafaudage qui part du sol pour la cathédrale gothique, car il faudrait des échafaudages vraiment fantastiques. Non, le gothique va amener une autre forme d'échafaudage qui est une véritable plateforme de travail qui ne part plus du sol mais qui est accrochée dans le mur. Là aussi, ce n'est pas une évolution, c'est une véritable révolution.
Pour la coupe et le transport du mérin destiné au cintre de Saint-Lazare, pour les charpentiers et les manœuvres, 17 livres de sous 7 deniers. Pour les gaules destinées aux chanlattes, 5 sous. Aux charpentiers pour le mérin fait dans la forêt du chapitre, 8 livres 16 sous. Pour la réfection du toit de l'église et la remise en place des engins, 3 livres 15 sous. Aux charpentiers qui latèrent Saint-Lazare, 10 livres 8 sous. Pour l'achat des lattes, 3 sous 6 deniers. À maître Pierre de Dijon, couvreur, 70 livres.
Alors quand on pense bâtisseur de cathédrale, on pense au métier noble de la pierre, du verre, on pense aux architectes, mais il faut bien imaginer que c'est un chantier considérable qui fait intervenir toutes sortes d'acteurs. La création d'une cathédrale dynamise toute l'économie de la cité. Alors comment ne pas rendre hommage aussi à tous les autres œuvriers œuvrant pour cette construction, métier annexe, certes, mais indispensable, comme dans une chaîne. Alors on a évoqué les terrassiers, métier. On peut dire qu'ils sont les premiers à intervenir dès le départ pour creuser les fondations qui font quelquefois 7 à 8 mètres de profondeur. Souvent, la masse invisible est tout aussi importante que la masse visible.
Bien sûr, l'exemple le plus connu, c'est bien sûr la cathédrale de Milan, où il faut aller à 7 mètres, donc creuser 7 mètres et faire des terrasses. Donc il y a bien ces métiers dont vous venez de faire écho, bien ces métiers anonymes, inconnus. Et on les qualifie de métiers invisibles, parce que là aussi, l'iconographie médiévale ne les représente pas. Ce sont les grands oubliés. Je crois qu'il faut prendre en compte cette longue chaîne que sont les métiers, les œuvriers des cathédrales. Bien, ces métiers qui sont visibles, on ne va pas trop insister là-dessus, puisque nous les connaissons bien. Ce sont les maçons, les tailleurs de pierre, mais également les gâcheurs de mortier, les sculpteurs. Et j'aurais tendance à me méfier de ce mot, sculpteur. Il vaudrait mieux employer le mot d'imagier. Il y a ensuite donc ces métiers du bois que l'on a évoqués, les charpentiers. Un surnom qui est assez intéressant sur l'univers cathédral, les charpentiers, donc ce sont les bois debout. Les compagnons, encore aujourd'hui, les compagnons charpentiers se surnomment les bois debout. C'est-à-dire les bouts de bois, mais des bois qui sont toujours dressés. Les charpentiers sont en hauteur. Et par rapport aux bois debout, il y a les bois menus, à savoir ces menuisiers, ces huissiers, ces faiseurs d'huis, ces faiseurs de portes, qui sont un peu les oubliés des métiers du bois. En liaison toujours au grand patron tutélaire qui est la charpente, il y a des métiers tels que les couvreurs. On les connaît, mais on a tendance à ne pas les glisser au premier rang de la cathédrale. Or, une cathédrale sans couverture, sans toit, en plomb, donc les plombiers également, ces fameux plombiers, ces racouvre-tors, qui sont les vieux mots utilisés et sollicités à l'époque, il faut les rappeler. De même qu'il faut rappeler l'importance des plâtriers. Or, couvreurs, plombiers et plâtriers ont été pris sous la protection des charpentiers, non pas des tailleurs de pierre. Il y a une noblesse, il y a un patrimoine, il y a des hiérarchies, des protocoles qu'il est bon de rappeler sur l'univers cathédral. Alors, si l'on en arrive aux métiers beaucoup moins connus, à ce que j'appelle moi les bas métiers ou les métiers invisibles non représentés sur les images, eh bien il faut rappeler au premier rang donc les forgerons, les serruriers. Parce que sans forgerons, eh bien les haches, Les outils, c'est-à-dire les marteaux des tailleurs de pierre, les doloirs, les herminettes, mais aussi les clous, le fer pour les chevaux, les fers. Eh bien, les métiers des forgerons sont là aussi indispensables et on ne peut pas les dissocier des œuvriers des cathédrales. Ces mêmes forgerons, avec les serruriers, eh bien, vont participer à l'élaboration de véritables chaînes de fer, ces fameux chaînages, ces armatures en fer, que le maître d'œuvre va dissimuler, va sceller dans la maçonnerie. On a des exemples célèbres, c'est Soissons, c'est la Sainte-Chapelle, c'est Carcassonne, c'est Beauvais, où il faut, pour bien sécuriser l'édifice, eh bien associer le fer dans la maçonnerie. Donc ces forgerons, les métiers du fer en général, ce sont aussi des œuvriers des cathédrales.
Au bourrelier Benoît, pour les selles à bourrelets, les colliers, les chevêtres et autres articles de cuir relatifs au chariot, 2 livres, 10 sous. Pour le foin, l'attelage du dit chariot, 19 livres, 17 sous, 4 deniers. Pour l'avoine, 25 livres, 3 sous, 9 deniers. Pour le suif fondu, l'huile, le vinaigre et 30 livres de chandelle pour l'année, 2 livres, 7 sous. Pour les chevilles de fer et les noix affairées et pour le fer, 18 sous, 3 deniers. Pour les cordes, 13 deniers. Pour soigner un cheval, 5 sous. Pour l'achat d'un cheval, 3 livres 10 sous.
L'organisation du chantier de la cathédrale était donc parfaitement réglée. Mais si on peut réaliser des architectures aussi audacieuses, c'est grâce au savoir-faire de chacun de ces ouvriers. Néanmoins, François Hichet, on s'interroge encore aujourd'hui. Comment, avec si peu de moyens, ces hommes ont-ils réussi à bâtir ces chefs-d'œuvre?
Je crois qu'on pourrait répondre avec trois verbes. Il y a d'abord le verbe vouloir. On veut la cathédrale. On, c'est l'évêque, c'est le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage. Mais c'est aussi ces 3000 œuvriers, et au-delà de ce chiffre, c'est toute la population, toute la ville qui veut sa cathédrale, donc qui va la financer, qui va la lever. Donc vouloir la cathédrale. Ensuite, il faut pouvoir la cathédrale, c'est-à-dire il faut pouvoir la financer, il faut pouvoir la lever à nouveau, donc entre en jeu les hommes et le matériel et le financement. Vouloir, pouvoir. Et on ne peut pas comprendre la cathédrale sans le troisième verbe qui est le verbe savoir. Il faut savoir faire la cathédrale et c'est là que se situe un espace très précis qui est l'espace des métiers cathédraux, à savoir le maître d'œuvre et les maîtres des métiers cathédraux, donc que l'on a décliné au fur et à mesure du tailleur de pierre au charpentier en passant par tous les métiers. Donc pouvoir, savoir, vouloir, c'est un peu à travers ces trois expressions, ces trois mots, ces trois verbes que l'on peut mieux comprendre la cathédrale. C'est une foi. C'est un projet, c'est une motivation extrême que l'on a du mal à saisir avec notre regard d'homme moderne. Mais dans la vie quotidienne médiévale, participer au chantier cathédral, c'est plus qu'une aventure exceptionnelle, c'est l'aventure, c'est vraiment le projet qui va donc occuper sa vie et qui va sacraliser sa vie.
Les formes, les volumes, les poids, les résistances, les poussées, les flèches, l'équilibre, les mouvements, les lignes, les charges et les surcharges, l'humidité, la sécheresse, la chaleur, le froid, les sons, la lumière, l'ombre et la pénombre, les sens, la terre, l'eau et l'air, enfin tous les matériaux sont, tous et toutes, contenus dans la fonction souveraine, dans l'unique cerveau de l'homme ordinaire qui bâtit. Cet homme sera tout, argile et sable, pierre et bois, fer et bronze. Il s'intégrera, s'identifiera à tous les matériaux, à tous les éléments, à toutes les forces apparentes et internes. Ainsi, il les portera, les évaluera, les auscultera, les verra avec son âme, comme s'il les tenait dans ses mains. Les ouvriers des cathédrales, les hommes du bois, avec François Hichet, docteur en histoire, auteur des ouvriers des cathédrales, de La France des compagnons aux éditions de La Martinière et de Compagnons, l'amour de la belle ouvrage, découverte Gallimard. Texte dit par Laurent Lederer. Franck Berger, Philippe Carminati, Nathalie Battus, une émission d'Anis Clément.
Venez d'entendre « Les hommes de la pierre » et « Les hommes du bois », les deuxième et troisième volets de la série « Les ouvriers des cathédrales » proposée par Anis Clément dans « Les chemins de la connaissance », diffusée la première fois les 28 et 29 mars 2000 sur France Culture. À suivre. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.